Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis en compagnie d'Olivier Crène. Bonjour à toi.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Ah mais merci surtout de te manifester puisqu'on va parler de choses très très intéressantes en ta compagnie. Tu te manifestes auprès de nous surtout parce qu'en fait tu avais déjà commencé par apparaître dans certaines de nos émissions. Tu es un acteur, un militant on peut le dire.
Ouais,
on
va
dire
comme ça. Ouais,
un activiste. Et notamment, nous on t'a connu avec ce qui se passait autour de la jungle de Calais.
Ouais, c'est ça, c'était donc en 2015. Donc il y avait la mairie de Calais qui avait mis à disposition un terrain, une ancienne déchette recouverte de terre et de sable et tout ça. Et donc du coup, elle avait dit allez-y les gars, installez-vous dessus. Sauf qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait rien. Les gars, ils étaient à l'arrache complet. Et puis du coup, il y a eu appel de certains activistes anglais et français. Et puis des collectifs No Border qui étaient sur place de venir filer un coup de main. Donc moi, j'ai des plans. Puis c'est assez ironique puisque c'est au Bourget pour récupérer des bâches en fait super solides qui servent à couvrir les avions quand ils font les réparations. Certains avions notamment qui servent à expulser les gens. Donc c'est assez ironique d'aller construire des cabanes pour les abriter
avec ces bâches.
Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait eu le contact pour en parler, pour témoigner, en sachant qu'en plus, juste à cette période-là, je sortais de l'occupation de Roibon qui venait de, au niveau législatif, de se conclure par l'abandon du projet. Donc moi, j'étais pas forcément pour... Enfin voilà, j'ai vécu dans les squats avant tout ça, donc j'avais pas spécialement envie de rester dans la montagne, monter un squat dans le froid. Voilà, j'avais passé l'hiver derrière les barricades à faire de la com sur le site, etc. Je pense que mon tour était venu de faire autre chose. Je me suis retrouvé à Calais, puis depuis, j'ai fait d'autres choses aussi. Et puis voilà, là maintenant, je me retrouve là, encore une fois.
T'as commencé par quoi ton activisme? Parce que là, tu parles de Roibon, Calais, ouais. C'est quoi le déclencheur?
Le déclencheur, je crois que c'est une famille syndicaliste, en fait. Hein. C'est depuis toujours, en fait. J'ai baigné là-dedans, un grand-père ancien militaire qui a travaillé sur le remembrement, qui était limite facho. Et, bon, voilà, mais c'était un bon grand-père. Et puis, qui écoutait ce qu'on disait, en fait. Et puis, du coup, qui a deux filles très à gauche, très, très syndicales, très militantes. Donc, les repas de famille étaient super animés. Et puis moi, j'étais l'aîné des petits-enfants, donc j'ai été très vite à table et puis amené à donner mon avis. Et puis de fil en aiguille, moi, j'ai grandi dans la génération, les années 90, la techno, tout ça. Je suis parti en camion vite, en fait, parce que j'avais la chance d'avoir un père instit qui m'a appris l'anglais super jeune. Et du coup, comme j'étais en Bretagne à l'époque, les Anglais, je suis vite monté dans les camions, je suis vite parti. Et puis, ça m'a amené jusqu'en Amérique du Sud en 2006, où on a été le premier sound system à arriver là-bas avec un truc collectif qui s'appelait No Border Sound System, qui est toujours actif là-bas. Et en parallèle, on avait monté une association qui s'appelle le Syndrome Actif, qui est devenue une ONG, qui est maintenant basée à Ibagué, en Colombie. Et on travaille avec les peuples ancestraux. Donc après, moi, j'ai continué à voyager. Je me suis retrouvé... Mon père était en Afrique à cette époque-là. Donc je me suis retrouvé basé à La Réunion. Donc j'ai fait tout le sud de l'Afrique, la zone océan Indien. Et puis rentré en France. Et puis là, comme une grenouille, quoi, en mode... Les mecs, ils étaient là, ils se sont laissés bouillir au fur et à mesure. Moi, je suis rentré, j'ai vu le changement. Putain, 12 ans après, quoi. Et du coup, je fais non, il n'y a pas moyen, quoi. Et
tu arrives en quelle année, là?
Je suis rentré en 2013.
2013.
Ouais. Donc, du coup, les mecs, ils s'étaient tapés Sarko, tout ça, machin. Moi, j'étais parti en 2002, après la loi anti-techno. On est parti. On est resté dans les pays de l'Est un bout de temps. En 2005, on se fait tabasser par les flics au Technival, un gros rassemblement tchèque de juillet, mais méchant sévère, quoi. Au canon à eau sur le son, enfin, voilà, machin. Du coup, on s'est dit, où est-ce qu'on va? On avait des copains qui revenaient d'Afrique, qui nous disaient, en Afrique, ça marche pas la techno. On a dit, bon, allez, venez, on essaye l'Amérique du Sud. Et puis, ça a cartonné. On est arrivé en Argentine 4 ans après la crise et la chute économique. On leur a fait des fêtes gratuites dans les parcs de Buenos Aires. Les mecs, du coup, on a été invités au Brésil. Et puis, du coup, ça a tourné. Mon pote s'est marié avec une Colombienne. On a acheté des terrains en Colombie. Puis moi, après, je suis rentré, je suis passé à autre chose. Et puis, je me suis retrouvé donc en zone africaine où j'ai voyagé plus tout seul en sac à dos. Et là, j'ai pris une grosse claque, en fait, parce que je me suis retrouvé où c'était moi l'étranger, vraiment, en fait. Et que j'avais pas grand-chose à apporter à part mon sac à dos et puis mon amour de la vie, peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, en fait, après, quand je suis rentré en France, j'ai fait « mais c'est pas possible, quoi ». Et puis derrière, il y a eu la mort de Rémi Fraisse, qui a été un déclencheur, en fait, pour moi, parce que je continuais à faire mes petits trucs. Je bossais dans les écoles, à droite, à gauche, où je parlais de mes voyages, justement, dans le cadre des TAP qui venaient d'être mis en place sous Hollande. Et puis voilà, je me suis retrouvé de fil en aiguille dans une ZAD, dans un machin, après bah, à Calais, puis après ça a enchaîné, il y a eu la COP 21. Et puis ma copine est tombée enceinte, voilà, d'une petite fille qui a 16 mois aujourd'hui. Entre-temps, on avait monté une petite salle associative où on faisait des récoltes pour les exilés après le démembrement de la jungle, par exemple à Alex, etc., où on envoyait des dons là-bas. Ou à, je ne sais plus comment ça s'appelle, Saint-Hilaire-du-Rosier, je crois, en Isère. Et donc, du coup, voilà, on s'est retrouvés à faire pas mal de trucs, des expos, des débats, et ça ne plaisait pas du tout à la mairie de Saint-Antoine-l'Abbaye, qui n'a rien trouvé de mieux après nous avoir fait 2 descentes des flics, où ils n'ont rien trouvé, parce que la salle était non-fumeur, donc ça faisait beaucoup rire les flics aussi, qui venaient chez nous pour chercher des trucs. Alors, ils savaient très bien que c'était non-fumeur, donc c'était assez drôle, en fait, l'ambiance, mais la volonté était de nous fermer, en fait. Et donc, du coup, ils ont fini par nous mettre un arrêté municipal sur les remises aux normes, et donc d'interdiction d'avoir du public. Et donc on leur a dit, mais en fait on s'en fout, on reçoit pas de public, il y a que les membres de l'association qui rentrent. Et donc du coup ils ont fini par menacer de s'attaquer à nos enfants, donc on a fait ok, on s'en va, et puis maintenant on fait de la permaculture à Saint-Vallier avec ma femme qui est horticultrice de métier, et puis on continue à travailler avec les écoles, avec les machins, tout ça, donc voilà.
C'est un peu une vie de bâton de chaise quand on est zadiste.
Ouais, après, je sais pas, on peut me coller plein d'étiquettes, tu vois.
Est-ce que t'es recherché un peu ? Est-ce que...
Non, justement.
T'as fait de la merde ?
Non,
t'es allé taper ?
Non, justement, moi, je parle avec les flics. Justement, ouais. Je mets pas de cagoule, en fait. Après, je comprends ceux qui le font et je juge pas. Je crois que j'ai beaucoup...
La question devait être posée.
Ouais, voilà, je mets pas de cagoule, en fait, c'est clair. Et d'ailleurs, ça m'a valu des reproches dans un sens, qui est celui de ceux qui en mettent. Et donc, autant parce que je suis proche et que je soutiens ce qu'en mettent, on peut me reprocher certaines choses dans un sens. Et puis, dans l'autre, on va me dire que je suis trop proche des médias, trop proche des flics. Parce que, justement, la dernière fois, quand Cédric Héroux est venu à la maison, donc l'année dernière, et puis la marche des migrants s'est arrêtée chez nous à Saint-Vallier. Donc, on a fait un gros truc avec machin. Donc, sur une semaine, on a fait pas mal de trucs. Les gendarmes avaient un peu peur parce qu'à Lyon, il y a quand même beaucoup de collectifs super fachos. Et donc, du coup, ils avaient un peu la trouille pour nous. Donc, ils nous ont appelés. On leur a dit, mais venez, quoi, pas de soucis. Donc, ils étaient invités au pique-nique. On leur a offert des saucisses, du pinard. Voilà, enfin, il n'y a pas. C'est des humains avant tout. Je crois que le problème, c'est qu'ils n'ont pas cette capacité de droit de retrait qu'ils ont pourtant. Et que, voilà, mais après, ça ne m'empêche pas de leur dire. Quoi. Je ne suis pas content. Et je ne peux pas. Voilà.
En tout cas, c'est important pour les médias d'avoir des gens qui témoignent du vrai et non pas de toutes les images préfabriquées qu'on peut voir très régulièrement. Donc Olivier, tu viens ici en Drôme et alors là, tu te lances sur plusieurs objets et notamment cette campagne, une fameuse campagne.
Ouais.
J'ai du glyphosate dans mes urines.
Alors, j'ai des pesticides dans mes urines et toi, ouais. Parce qu'en fait, le glyphosate, on s'en sert uniquement de marqueur. Alors, comment c'est cette histoire, en fait, parce que je fais aussi partie du collectif des faucheurs volontaires depuis quelques temps et que bah voilà, donc l'idée...
Il y a de l'OGM encore dans la Drôme parce que ça avait pas mal fauché une période.
Ouais, alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait on les a mis à mal, la législation a beaucoup évolué là-dessus, notamment là l'année dernière où les végétaux résistants au traitement herbicide ont été donc interdits en Europe. Il y a toujours l'INRA hein, qui fait des recherches de merde l'argent public, encore une fois, quand on est tous ravis de savoir tout ça. Donc maintenant, nous, le problème des champs, il est toujours là. Il y a puis il y a de l'import, beaucoup d'OGM, il y a beaucoup d'import. Je veux dire, bon, ceux qui n'ont pas vu le film Le Grain est livré devraient le regarder pour ça, parce que justement, on y voit les dégâts de ça. Et donc, pourquoi s'attaquer aux pesticides ? Et de manière générale, en fait, c'est parce que sans pesticides, il n'y a pas d'OGM. Enfin, pas cela, en tout cas. Et parce que le principe de l'OGM, c'est le principe même, c'est de résister, en fait, au traitement des herbicides. Et que donc, derrière, en fin de compte, ils ont une production linéaire à machin. Alors, pareil, j'ai vu un documentaire hier soir. Franchement, j'en avais les larmes aux yeux. Il est sur Arte, sur la chaîne YouTube Arte. C'est « L'homme a-t-il mangé la planète ?» Et ça a pleuré. De voir justement qu'en fait, on en apprend beaucoup plus, notamment sur le rachat de Bayer, de Monsanto par Bayer. Il y a plein de trucs qui sont en fait historiques. Ces mecs-là, en fait, pendant la guerre, ça c'est un truc incroyable, quoi. Pendant la guerre, donc Monsanto, américain, Bayer, allemand. Les Américains mettent une volée aux Allemands. Les mecs récupèrent les brevets, notamment l'aspirine, notamment plein de trucs, notamment donc le glyphosate, qui était en voie d'expérimentation pour d'autres raisons. Et donc, du coup, c'est un peu un rachat historique. En fait, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit tant basé sur le pognon. C'est juste l'entreprise allemande qui récupère son bien, qu'elle s'est fait voler pendant la guerre. Et en fin de compte, voilà. Et là, j'ai compris certaines choses encore, certaines nouvelles choses sur la moquerie mondiale, en fait, de l'industriel et justement comment, en fait... comment il est important de lutter, en fait.
Et puis, puisque tu parlais de la guerre, c'est aussi bien de rappeler que c'est des produits qui ont été testés à des fins
militaires, ouais.
Militaires, ouais. Dont on connaît le résultat à cette période.
Mais comme tous les grands, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui est expliqué dans ce reportage, qui est excellent, c'est que c'est comme tous les outils et les machines avec des chaînes qui ont permis de creuser les mines, qui permettent aujourd'hui encore de déforester. Au départ, c'est parce qu'on a inventé les tanks qu'ils ont eu l'idée d'adapter, et tout comme les grandes chaînes dans les carrières, tout ça, c'est toutes ces machines à chaînes, en fait, et puis à, comment on appelle, oui, c'est ça, les
chenilles.
À chenilles, voilà. Merci, voilà, les chenilles,
aussi.
Ouais.
La tronçonneuse.
Tout ça, voilà, ouais. Tout ça, ça a été fait, ça part de l'armée, en fait, ça part de la domination de l'homme sur la nature et de comment, en fait, au lieu de s'adapter, on pourrit tout. Et en fait, là, cette campagne qui part d'une action des faucheurs volontaires, en Ariège, en 2016, une action nationale, mais répartie par tous les collectifs locaux. D'ailleurs, si des gens sont intéressés par rejoindre les faucheurs volontaires, parce que c'est des actions non violentes physiques face aux hommes, évidemment, on est dans la destruction. Parce que le but, c'est de se faire arrêter. Donc, le concept des faucheurs volontaires, c'est d'aller faire une connerie. Donc, par exemple, là, c'était donc ce qu'on appelle une connerie de manière légale, hein, parce que pour nous, c'est quelque chose de sensé, en fait. Notre avocat nous appelle des lanceurs d'alerte. Bon, c'est bon, chacun son langage. Moi, je parle parce qu'on est juste des activistes qui sont dans une démarche vraiment très claire. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette action de 2016, chacun allait dans la jardinerie de son village ou de son machin, et on allait avec le petit rouleau de peinture et on repeignait les bidons de Roundup. À l'époque, le Roundup était encore en vente dans les jardineries. Donc voilà, donc c'était pour aller dire, arrêtez-nous, quoi. On veut un procès national, en fait. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de procès national, comme ça arrive souvent. Je pense encore à une action qui a été faite il n'y a pas très longtemps dans un carrefour. On a mis des autocollants OGM cachés sur tous les bidons d'huile dans le rayon. Les mecs nous ont juste demandé de partir. Ils n'ont pas envie, forcément, qu'il y ait un procès. Donc il y a plein d'actions des faucheurs volontaires où derrière, il n'y a pas de procès. Il y en a aussi où il y a des procès et à chaque fois, le but, ce n'est pas de nous mettre en prison, c'est de nous tuer budgétairement, financièrement. Et ils nous mettent des amendes de fou, machin. Donc on compte sur la solidarité qui est toujours là. Donc il y a le risque, évidemment. Mais
du coup, ces procès ne sont pas assez médiatisés.
Non, rarement, ça, ils ne sont pas assez médiatisés. Mais ça l'a été un temps. Ça allait beaucoup moins
maintenant. L'objectif est raté, alors ?
Non, pas vraiment.
Faut changer
là-dessus. Alors, pas là-dessus, par exemple. Notamment sur le procès de Dijon, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, où il y a eu, relax pour les 57 prévenus. Donc, il faut savoir pourquoi 57 prévenus. C'est-à-dire qu'ils n'embarquent pas 57 personnes quand on... Voilà. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on fait des listes avant de faire des actions et que tout le monde est volontaire pour se dénoncer. C'est-à-dire qu'une fois que l'action elle est faite, même si les flics ne viennent pas, on va chez la gendarmerie, on leur donne le papier, voilà, on vient de faire ça et on est ces gens-là. Donc derrière, il y a une volonté d'être mise en lumière, en fait, et cette mise en lumière, ouais...
C'est quand même énorme.
Ouais, on se marre bien, j'avoue. Ouais, puis à chaque fois, franchement, les procès, c'est fanfare, stand, témoignages avec des chercheurs qui nous soutiennent, qui viennent, des trucs hyper intéressants, et puis les procès durent 2-3 jours, enfin, c'est super. Enfin, vraiment, il y a une ambiance, une vraie ambiance comme...
C'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de vous condamner, quoi. Ou même de faire le procès. Oh non.
Ouais, c'est ça, c'est genre...
Ils sont venus en quart, déjà.
Ouais, c'est ça, les mecs, on arrive, on est 50, les mecs ils sont là, mais vous venez faire quoi? Bon, on vient se dénoncer, on vient de faire une connerie. Ah non, vous avez pas fait de connerie? Bah si, là-bas, là, regarde et tout. Non, c'est pas vous.
On a filmé.
Ouais, c'est ça, les mecs sont là. Non, c'est pas vous. Non, c'est bon, allez, cassez-vous. Bon, c'est arrivé, c'est pas tous les jours comme ça, donc il faut pas croire. Mais sur le coup, donc pour revenir à l'histoire, comment on a démarré cette campagne, donc l'idée c'était d'aller dénoncer que le Roundup n'avait rien à foutre en fait, en vente libre et surtout pas à portée de main des enfants. Aussi, tu vois. Mais bon, l'idée, elle était surtout de dénoncer ça. Donc là, en Ariège, ils ont eu un procès. Il y a plein d'endroits en France où il n'y a pas eu de procès, où on les a laissés faire, où les bidons ont été balancés à la poubelle ou peut-être donnés à des gens, j'en sais rien. Mais qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de convocation, rien. Par contre, les Ariégeois, eux, ont été convoqués. Donc, convocation au tribunal. Dans la discussion par rapport à ce qui avait été fait chez Génération Future de tester l'urine et de montrer qu'il y avait des pesticides dedans, on se décide, donc le groupe se décide à faire la même chose. Avec les avocats et sa femme, qui est une biologiste très, très, très intéressante à entendre et qui travaille au cabinet avec eux donc en tant que conseil, en fait. Et donc, ils sont tous arrivés en disant, nous, on est tous... voilà, c'est un produit, le glyphosate, qui est censé être super volatile. Comment se fait-il qu'on en ait tous, alors que la plupart des faucheurs volontaires sont des gens avertis, qui mangent relativement bien, qui font attention à leur mode de vie, qui pour certains d'ailleurs en Ariège vivent au fin fond de la montagne, un peu comme ça se peut ici, et puis qui sont quand même contaminés, donc d'où ça vient, quoi. Et là, il y avait une question qui se posait, donc une question de constitutionnalité européenne, du droit européen, en application du droit, du principe de précaution. Le principe de précaution, c'est-à-dire qui prévaut sur l'innovation, qui prévaut sur tout d'ailleurs, et qui est-ce qu'il y a un risque ? S'il y a un risque environnemental, s'il y a un risque pour la santé, on ne met pas ça sur le marché. Donc, notre avocat a posé cette question-là au tribunal deux fois. Le tribunal deux fois, ils se sont... en fait, ce n'est pas de notre capacité juridique, vu que ça dépend de la Cour européenne. OK, question prioritaire de constitutionnalité, pas de procès, on renvoie ça à la Cour de justice européenne. Donc en novembre dernier, donc ça a pris un an et demi, en novembre dernier, l'avocat est allé plaider, donc poser ces questions-là directement en plaidant. Durant sa plaidoirie, donc face aux 27 ou 28 membres de l'Union européenne qui étaient là, représentés par chacun, plus le président de la Cour européenne qui a eu la grande idée de cette superbe phrase qui dit... Bah, si vous pissez du glyphosate, c'est que vos reins fonctionnent bien. Ouais, ben voilà, on en est là, quoi. T'es là, tu regardes, mais t'es sûr.
Putain,
t'es
énorme.
Sûr de toi, quoi. Et le gars, ouais, bien dans ses baskets. Et puis pourtant, l'avocat qui dit, non, mais vous en avez sûrement aussi. Ouais, et voilà. Fin. Et donc voilà, réponse en juillet, pour savoir.
Il y a eu d'autres choses qui ont été dites. C'est le fait qu'on puisse en avoir dans notre corps ne prouve pas encore aujourd'hui qu'il va nous rendre malade.
On n'est pas là-dessus, non.
Ouais, voilà, c'est ça.
On n'est pas du tout là-dessus.
Oui, c'est un des arguments qui est avancé en disant,
je ne suis pas scientifique, moi. Tu vois, je ne suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal. Je dis juste que si ça peut être dangereux, on ne devrait pas l'utiliser. Qu'il y a un moment donné, ça suffit. C'est comme aller creuser... moi, je viens de Bretagne, aller creuser 1 kilomètre des côtes pour avoir du sable, pour faire du béton, pour soi-disant loger les gens, quand on serait capable de faire des logements en pierre et en terre, y a un moment donné, il n'y a plus de dunes en Bretagne. Mmh. Voilà l'idée, quoi. Donc, à un moment donné, il est où le principe de précaution, là encore ? Il n'est pas respecté. Et les mecs te disent, ouais, mais on creuse dans les eaux internationales. les gars, quoi, tu vois. Et c'est la même chose.
Il va falloir attendre dans ces cas-là, comme à chaque fois, qu'il y ait vraiment des cas avérés, série de personnes, un nouveau cancer, un truc comme ça, pour que ça bouge.
Alors, il y en a parce qu'on est quand même face à Bon Voyage. Je crois qu'il y a des lymphomes hodgkiniens. Enfin, voilà, je suis vraiment pas scientifique. On a des groupes scientifiques chez les faucheurs, notamment par rapport à la campagne glyphosate, qui sont vraiment au top et qui sont eux capables d'aller parler. Et nous, on se propose dans les médias traditionnels de venir. Il y a pas de problème. Arrêtez d'inviter toujours les mêmes. Nous, on veut bien. On a des gens qui sont aptes et qui s'expriment bien, qui vont vous parler, quoi. Non.
Avec et qui répondront sur la science. Mais bon, alors Olivier, toi par contre, tu proposes que cette campagne de pesticides dans les urines soit menée à l'échelle du département de la Drôme.
Donc on a commencé, quand les Ariégeois donc ont fait ça, eux ils se sont dit, puisque derrière, puisqu'il y a question de constitutionnalité, puisqu'effectivement le tribunal dit, ça craint que vous ayez ça, c'est qu'il y a un problème. Donc on décide à ce moment-là de travailler, c'est un travail qui a pris plusieurs mois avec le groupe de recherche justement des faucheurs volontaires, le groupe légaliste des faucheurs volontaires et les avocats. Donc il y a eu la mise en place d'un système de plainte, donc sous contrôle d'huissier de justice, parce que le truc qui avait été reproché à Génération Future quand ils l'ont fait, c'est qu'il n'y avait pas d'huissier de justice. Donc en fin de compte, n'importe quoi pouvait avoir été mis dans les flacons. Donc nous, pour être entendu, on a rajouté un huissier de justice à un protocole hyper serré, hyper strict, avec les premières urines du matin à jeun, etc., machin. Et donc là-dessus, il a fallu un peu d'aide des gens, quoi, parce que ça faisait beaucoup d'argent, en fait. Et donc, du coup, on a fixé le prix à 135 euros par tête et on a fait un appel. Enfin, les Ariégeois ont fait un appel à des gens autour d'eux. Sauf que ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que des centaines de personnes leur ont proposé de le faire en se disant « moi aussi, je veux savoir ». Parce que les gens sont inquiets, en fait. On nous dit que c'est un truc qui a été fabriqué pour tuer et on en a et on en pisse. Donc nous... L'idée, elle est là.
Donc, pour 135 euros, on peut se faire tester ?
Ouais, c'est ça. Alors, il faut être un groupe de 25 minimum parce qu'il faut payer l'huissier derrière. Et que aussi, derrière, on a les faucheurs volontaires avec la caisse anti-répression financent l'avocat de la campagne. Donc, il y a juste le prélèvement qui est de 85 euros, plus 50 euros qu'on prend pour en plus payer une petite collation à la fin aux gens qui viennent, pour nos frais à nous d'impression de papier, de tout ça, machin. Et puis, s'il y a un peu plus, par exemple, on peut se permettre de payer un prélèvement par-ci à des gens qui n'ont vraiment pas de sous, ou alors rajouter un peu de sous à la caisse anti-REP parce que là, on en a plus de 2000 personnes déjà qui se sont fait tester sur toute la France et qu'il va falloir payer l'avocat pour tout ça. Et que l'avocat, il peut pas bosser gratuit et que donc il est déjà bien sympa puisqu'il fait plein de choses pour nous. Qui fait en plus de ça. Il a une grosse partie du cabinet qui bosse que pour les sujets des faucheurs volontaires.
C'est aussi des militants, toujours, ces avocats-là. Hein.
Ouais, c'est 50% du boulot fait par eux. 50%, et encore, je suis gentil, quoi. Parce que ouais, voilà, ils nous évitent d'être tus. En fait.
Alors, tu parlais de lanceurs d'alerte, mais finalement, quel est l'objectif de cette campagne de test? Évidemment, les gens qui ont besoin de savoir, on l'entend, hein, ouais. Ils ont envie. Mais en même temps, c'est pour bouger un peu l'opinion publique quand même. 2000 personnes, on pourrait d'ici 5-6 ans être à 1 million de personnes testées, ouais. et essayer de créer un rapport de force. Enfin, je voudrais comprendre.
Alors, on s'est fixé un premier objectif qui est de 5000 personnes avant la fin de l'année. Voilà, sur tout le territoire français, en sachant que c'est parti à La Réunion, que là, bientôt, je vais aller en Suisse, parce qu'il y a des Suisses qui veulent le faire aussi. Enfin, voilà, c'est en train de partir à l'international, parce qu'en fait, on a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière, malgré tout, avec ça. Et comme je disais tout à l'heure, pour continuer, quand les faucheurs volontaires ont vu que ça marchait, ils nous ont proposé à chaque groupe de faucheurs volontaires de faire de même. Donc, on a fait la même chose en Rhône-Loire, donc le groupe faucheurs volontaires Rhône-Loire-Drôme, dont je fais partie. Et puis, on a lancé un premier appel. Et on s'est retrouvé avec 200 personnes qui voulaient se faire tester au lieu d'en avoir, tu vois, les
25.
On était 8 au début à vouloir le faire, avoir le temps de le faire. Et donc, il nous manquait 15 personnes, tu vois. Et donc, bah, on s'est retrouvé avec 200 demandes. Donc, on l'a fait, ça a été médiatisé, on en a encore plus aujourd'hui. Tout le monde est positif, quoi. Tout le monde est positif. Et alors, on s'est basé sur un taux pour que les gens comprennent un petit peu ce que ça veut dire. Parce que quand on te parle de nanogrammes par millilitre de sang, les gens disent « mais c'est que dalle en fait ». Enfin, d'urine, pardon. Les gens se disent que c'est que dalle. Ouais, sauf que la norme qui a été fixée par l'Europe, en sachant que de toute façon, c'est une norme qui est la même pour tous les pesticides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à savoir lequel était le plus dangereux ou quoi. Donc ils ont dit « pour tous les pesticides, on considère que c'est dangereux dans l'eau potable, donc l'eau qu'on a au robinet, si ça dépasse 0,1 nanogramme par millilitre de sang, d'urine ». Tout le monde a plus. On a des taux qui vont jusqu'à 35 fois plus cette norme que les mecs vont pisser. Moi qui suis, donc je fais de la permaculture, je travaille sans intrants chimiques sur mes terrains, je suis autonome à 70% de ma bouffe. Mes enfants mangent la même chose que moi. Moi je suis à 0,23 nanogrammes par millilitre. Donc 2,5 fois le taux que je suis censé boire dans l'eau potable. En sachant que l'eau qui arrose mes terrains, c'est l'eau de la rivière. Ça veut dire que mes gamins en ont aussi, quoi. Ça veut dire que
tu les as pas testés ?
Non, je veux pas. Je veux pas savoir. Je suis déjà assez en colère après le monde tel qu'il est aujourd'hui. J'ai pas besoin de savoir en fait. Il y a des gens qui ont fait tester leurs gosses.
Hein. Est-ce que tu sais d'où ça vient ? Alors, est-ce que c'est effectivement l'eau de la rivière qui est déjà tellement saturée ou l'ensemble de nos sols que de toute façon, parce que le taux dont tu parles, il est testé dans les communes. Enfin,
ouais.
Ils peuvent pas servir cette eau-là en potable.
Non, mais
donc
alors...
c'est le reste. Donc ça vient dans les.
Ça viendrait de l'air, ça viendrait de la bouffe, ça viendrait des clopes, ça viendrait des coups que je bois. Avec mes copains, ça, je sais pas en fait. Et c'est justement à ça que sert ça. C'est-à-dire, tu me demandais quel est le but. Le but,
oui, il y en a dans
un.
La bière d'un bar, il
ouais,
y en a
ouais,
partout.
Ouais.
En
fait. Ou quand je vais manger chez un pote, parce que moi j'ai mes conditions de vie et je mange ce que je mange. Ouais. Je suis pas un emmerdeur, quoi. Donc, quand je vais chez les gens, je mange qu'à sur la table. J'impose pas mon régime alimentaire. Il y en a qui le font, et respect à eux si ça les fait marrer, mais ou pas d'ailleurs. Mais moi, en fait, voilà, je suis pas un emmerdeur. Quand je vais chez les gens, je mange comme ça, en fait, par politesse.
Mais bien sûr.
Et du coup, voilà.
Tu vas dans un hôtel une fois ou dans
ouais,
un.
Ouais, voilà,
camping,
t'es invité à un colloque, un truc, ouais, un machin militant, un truc, tu peux pas, ou même pas militant, un anniversaire, un mariage, un truc. Si tu vas pas dire, non, je viens pas à ton mariage parce que, tu vois, enfin, non, je mange pas ça. Et t'es là. Bon, il y a des gens qui le font chez moi, ça me fait toujours rire à chaque fois.
Tu viens avec ton doggy bag
ouais,
tout le temps
ça,
et ta
ouais,
propre
ouais,
bouffe.
Ouais, grave, excusez-moi, j'ai mon quinoa dans mon sac.
Non, mais pour aller plus loin, voilà. Justement, tu parlais des gens en Ariège là, qui étaient au fin fond d'une montagne, etc. Il y a des gens qui se sont effectivement suffisamment protégés, on peut l'imaginer.
Ouais.
Eh bien, pourtant, ils en ont quand même.
Voilà, c'est à ça que va servir cette étude. C'est-à-dire que cette étude-là qui est mise en place avec des statisticiens, avec un groupe de recherche, et puis des chercheurs qui demandent à l'intégrer, avec qui on est en train de négocier le fait que oui, vous pouvez l'intégrer, mais le dépôt de l'étude à la fin ne sera pas votre nom. Parce que nous, on veut que ça reste indépendant, citoyen, et c'est tout. Et donc, à partir de là, voilà, c'est chapeauté par les faucheurs volontaires, mais il y a plein de groupes qui n'ont jamais mis les pieds chez les faucheurs volontaires, qui aujourd'hui ont repris ça derrière. Donc, on chapeaute tout, nous, au niveau national, pour que tout reste clos, et qu'il n'y ait pas de diffusion de l'intimité des personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont blessées par ça. Il y a un mec, là, dans la Drôme, à Montélimar, qui est venu. Le mec, pour le prélèvement, et lui, était là, mais moi, j'en ai pas, quoi. J'achète mon blé à mon pote qui le fait lui-même, machin, même mon pain, tout. Il fait tout lui-même. Il a l'eau de son puits, machin. Et le mec, désolé. Donc voilà. Donc on a déjà ce premier groupe d'études qui va prendre toutes les données parce qu'en plus, on fait un petit questionnaire de mode de vie. Donc, par rapport à la situation géographique, à la situation avoisinante, par rapport à l'alimentation, par rapport à la qualité sportive, sanitaire, c'est-à-dire quelles sont tes maladies que tu pourrais avoir eues ou pas, machin, est-ce que tu as des problèmes de rénaux, etc. Mmh. Blabla. Et donc, on a vraiment un questionnaire assez, assez ouvert de manière à pouvoir ensuite, derrière, créer une étude par rapport aux résultats, par rapport à la zone géographique et par rapport à la qualité de vie. Et en plus de ça, on porte plainte. Donc voilà, on porte plainte. Parce qu'on considère... Et alors, on nous dit, ouais, vous portez plainte contre l'État, ça donne jamais rien, nanana. On porte ni plainte contre Bayer, ni contre personne. Enfin, si, justement, on porte plainte contre des personnes physiques et non pas des personnes morales. La volonté de ça, c'est qu'entre 2017 et 2018, il y a eu la remise sur le marché d'autorisation pour 5 ans du glyphosate et de tous les produits. Il faut savoir que le glyphosate seul est 100 fois moins nocif que en cocktail et qu'il n'est jamais vendu seul. Par exemple, le Roundup, ils ont eux-mêmes déclaré qu'est-ce qui est un principe actif. Le principe actif, c'est le glyphosate. Ils envoient dans les laboratoires pour faire tester le glyphosate, la nocivité du glyphosate seul, mais jamais le produit fini. Donc, ils n'envoient pas le produit fini pour savoir quelle est la réaction chimique du produit terminé, à savoir comment est-ce qu'il est plus nocif ou pas. Parce qu'ils considèrent, et ils ont le droit, de dire que non, en fait, ça c'est un principe inactif, ça c'est inactif, ça c'est inactif, ça c'est inactif. Donc vous faites que tester le glyphosate, fermez vos gueules, hop, on revient. Et il n'y a pas de contre-expertise.
Et le cocktail n'est pas...
Et le cocktail n'est jamais testé. En fin de compte, c'est hallucinant. Et donc du coup, en fait, nous là-dessus, on se base sur... Et c'est d'ailleurs la question de constitutionnalité qui a été posée dans le cadre du procès des faucheurs volontaires d'Ariège par rapport à ça. C'est, le droit européen ne correspond pas à la constitution européenne. Point. Donc, il faut changer ça. Donc, ça veut dire qu'il faut annuler les mises sur le marché de l'ensemble des pesticides, ceux du bio compris. Et là, ça pose question. Parce qu'en fait, ça veut dire que le droit est écrit en contrefort de la Constitution européenne, pour laquelle, déjà, on n'est pas forcément tous d'accord. Donc, mais en plus, quoi. Tu vois, donc, l'idée, elle est que de toute façon, derrière, il y a ça. Nous, derrière, ce qu'on dit au niveau citoyen... Donc, pour revenir à la campagne, j'ai des pesticides dans mes urines et toi. On s'attaque, nous, à l'ensemble des responsables et des signataires du début de la chaîne dans les labos de chez Bayer, à la fin de la chaîne, pour Bayer Monsanto, à la fin de la chaîne, à la Commission européenne et dans chaque pays, les mecs ont signé.
Chaque papier. Y compris en France.
Pas les députés. Non, parce qu'eux, en fait, ils n'ont fait que voter. Donc, par rapport à la manière dont on dirige la plainte, les députés ne sont pas inquiétés là-dessus. Par contre, oui, les ministres, oui. Mmh. Voilà. Mais les ministres, en tant que personne, et les attachés de cabinet qui se sont occupés de ces dossiers-là, en tant que personne, et les secrets, et les directeurs de laboratoire, et les mecs de l'ANSES, qui d'ailleurs...
C'est une chance d'aboutir une plainte aussi large ?
Oui, de toute façon, alors, voilà ce qui s'est passé pour l'instant. Donc, cette plainte-là, elle est posée nominativement contre X, en détaillant derrière dans le papier de la plainte l'ensemble des personnes que nous pensons susceptibles d'être responsables de la mise sur le marché d'un produit malveillant. La plainte, elle est dirigée pour mise en danger de la vie d'autrui, puisque le taux de ce qui devrait être dans l'eau potable est dépassé et qu'il n'y a aucune expertise qui n'a été faite, le produit étant considéré comme volatile. Ce qui nous arrive ne devrait pas arriver et n'arrive pas, d'ailleurs, sur le papier. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, les mecs, les lobbyistes, notamment monsieur le président de la Chambre d'agriculture drômoise, fraîchement élu, qui, lui, a comme ça l'argument « Non, non, mais ils cherchent pas le glyphosate, ils cherchent l'AMPA, c'est des branleurs, ils savent pas de quoi ils parlent. » Alors, l'AMPA est une molécule qu'on retrouve naturellement dans la nature. Et même Libération a fait un check news, suite à des déclarations de certains membres de la FNSEA. Et non, c'est pas vrai. On cherche le glyphosate pur, celui qui est mis dans le bidon et qui ressort. Et là, ça les fait chier parce que, en fait, c'est censé être volatile. Donc là, eux, ça les emmerde vraiment. Parce que l'AMPA, on ne sait pas d'où il vient. On sait qu'il peut venir des lessives. Enfin, il peut aussi se retrouver à l'état naturel. Le glyphosate n'est pas du tout une molécule qu'on trouve dans la nature. C'est une molécule de synthèse. Donc c'est pas normal, quoi. Pas normal du tout.
Plus facile à trouver, du coup.
Bah ouais, parce qu'en fin de compte, ça ne devrait pas exister. Donc ça ne devrait pas être dans les urines. Donc nous, on est. En fait. Les mecs ont fait aussi des tests. Il y a eu des tests des élus verts qui ont fait les cheveux. On n'est pas les premiers à le faire. Nous, notre volonté, c'est de démontrer qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre où, de toute façon, on nous a dit que c'était volatile, que c'est un produit qui a été fait pour tuer. Donc, il y a forcément quelque chose. Et que ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire quand sur un ADN, en fin de compte, on met un petit point et que du coup, ça décompose l'ADN derrière, il y a des études qui se sont cachées là-dessus et on ne veut pas en parler. En fait, ça, c'est un problème qui ne veut pas être parlé. Je ne suis pas scientifique, mais j'écoute quand même les copains qui parlent de temps en temps. Et que ça, on ne veut pas en parler, quoi. Quel est le problème parce que c'est un truc qui détruit le génome au départ, en fait, dans la plante. Quel est l'effet sur l'être humain? Non pas, parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Si ça fait 40 ans que c'est mis, et que ça fait 40 ans que ça traverse notre corps, quel est le problème? À un moment donné, on n'en sait rien. Il n'y a jamais eu d'études là-dessus, et il n'y en a pas encore. Ensuite, il y a atteinte à l'environnement, puisque ce truc-là est censé être volatile. Eux, ils disent qu'ils pulvérisent, non pas qu'ils épandent, mais qu'ils pulvérisent, et qu'ils visent vraiment bien les plantes. Ils ont quoi comme tracteur? Moi, je veux bien voir leur machine qui montre la silhouette de la plante et qui tire que sur les feuilles. Moi, je veux bien la voir, leur machine. Je veux bien. Sinon, il y a atteinte à l'environnement, parce qu'on en retrouve partout. Et le troisième point, c'est tromperie aggravée, parce qu'il y a eu les Monsanto Papers, parce qu'en 2015, on a sorti foison de dossiers qui prouvent qu'il y a triche et que ces mecs-là ont fait comme si ça n'existait pas. Donc là, il y a un problème, encore une fois, c'est un problème politique. Le combat qu'on mène, il est politique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un problème, et je crois que de toute façon, aujourd'hui, la crise sociale qu'on peut voir à travers les gilets jaunes, à travers la violence qui peut naître dans certains groupes, qui sont appelés Black Bloc, mais qui sont avant tout des militants, et qui n'ont certainement, s'ils agissent comme ça, je pense à un moment donné, plus que ça, pour répondre à la violence qu'on subit. Et les mensonges, encore une fois, alors lui, le Castaner, là, franchement, là, les mensonges, encore une fois, qu'on a vus, là, qui sont là d'actualité aujourd'hui.
Voilà. Ça n'arrange pas les choses.
Non, ça n'arrange pas les choses, et ça crée une cassure entre le peuple et cette mafia-là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ces mecs-là agissent comme une mafia. C'est non, on ne veut pas savoir. Ouais, c'est comme ça. Si t'es pas content, te casse ta gueule. Mais attends. Oh.
Ceci dit, ils se mettent en danger eux-mêmes. Enfin, je veux dire, ouais. Puisqu'on ne sait pas où ça va, si un jour ça pourra agir effectivement sur nos génomes à nous, on avance quand même un petit peu à vue, comme d'habitude, avec assez peu de conscience.
Alors moi, j'ai interpellé Célia de Lavergne, donc députée drômoise, rapporteuse de projet.
Autour de l'alimentation.
Ouais, c'est ça. Donc je suis allé comment ça s'appelle, Chabeuil. Il y avait le report de ça, donc où ils rendaient le rapport avec un autre député, le monsieur de la Creuse, où en fin de compte, on parlait de tout ça. Et moi, je l'ai interpellé. Je lui ai dit, non, mais là, on est tous positifs. Vous voulez pas le faire, vous, le test? Et elle a dit, ah, mais je doute pas que j'en ai, mais on peut pas faire ça comme ça. Il n'y a pas de solution. Ils font comment, les mecs qui font du bio? Ouais, mais vous comprenez, dans certains endroits, mais putain, t'as besoin d'aller cultiver en haut de la montagne. C'est quoi votre délire, en fait? Toujours plus grand, toujours plus loin. Mais c'est ça qui tue la planète, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, en sachant qu'en plus, cette nana est une ancienne lobbyiste de chez Veolia. Franchement, voilà.
Il y a des gens qui sont pas très bien placés.
Non, mais ils me font pas peur, en fait, ces gens-là. Clairement pas, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai aucune honte quand je les croise de les interpeller et de leur dire clairement, écoutez, là, vous mettez en danger la vie de tout le monde. Les enfants sont dans la rue, quoi. Oh, on se réveille un peu là? Les gamins sont dans la rue, ils veulent qu'on leur rende leur planète, quoi. Et c'est quoi le problème là d'être encore en train de dire que ouais, mais non, mais on peut pas, t'as vu? Mais non, si, on peut, bien sûr qu'on peut. Enfin, il y a tellement de choses qui me rendent fou, en fait. C'est pareil, on est en Drôme. La Drôme, c'est l'exemple mondial pour le bio, surtout ici d'ailleurs, dans la vallée, dans la bio-vallée, le Diois, tout ça. On est quand même dans quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Il y a une démarche vachement d'indépendance par rapport au lobby chimiste, en fait. Et les mecs, là, ils vont putain de bétonner 270 hectares dans le nord de la Drôme pour faire quoi? Une zone industrielle. C'est des dingues, en fait. C'est dingue. On ne peut pas continuer comme ça. Et le problème, et je vois, moi, j'étais à Saillant il y a 2 ans et demi. Là, on était invité pour une conférence par le CCFD Terres Solidaires par rapport à mon association Demain Verte. Donc, pour parler de l'accaparement des terres, en fait, justement, tu vois. Et que voilà, mais l'accaparement des terres, pour moi, du moment qu'il est industriel, que ce soit par l'agrochimie, parce que les agriculteurs sont les premières victimes de ça.
Là, on a d'ailleurs des belles stats. Il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui, entre 50 et 60 ans, enchaînent les AVC.
Ouais, Parkinson, blablabla.
Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de corrélation encore.
Non, il n'y en a pas. Non, bien sûr. Non, il n'y en a pas. Mais c'est un curieux hasard. Je pense que voilà, ces gens-là ont été trompés, trahis par des gens comme mon grand-père, dont je parlais tout à l'heure, qui, sorti de l'armée, on l'a placé à la galvanisation en Bretagne. Pour aller chez les agriculteurs, leur mettre la pression pour que les mecs, c'est où tu fais.
Mais ils y croyaient, non, en même temps.
Bien sûr, quoi. Ouais. Les mecs ont tout cassé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, l'argent de la PAC, pour parler de ça, l'argent de la PAC, c'est des millions d'euros. S'il était donné pour replanter des haies, replanter des machins et payer des emplois aux gamins qui veulent bosser, on pourrait désherber, quoi. En plus, on pourrait leur apprendre à reconnaître une plante qui est nocive, un machin. En plus, il y a un savoir-faire qui pourrait se retrouver. Je crois qu'il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions. Alors, le CICE, c'est pareil. Si tu vois, on parle du CICE, mais putain, les mecs, faites les transports gratuits. Parce que les mecs qui dépensent pas leur argent, ils vont se déplacer, ils vont aller déplacer de l'argent là où ils vont aller. Et puis voilà, on a quand même laissé.
Ils achèteront plus bio, du coup.
Ouais, et puis voilà, et puis bio, c'est pas forcément plus cher. Parce que c'est aussi un calcul des marges.
Ouais, bien sûr.
Il y a un calcul des marges qui est hallucinant. C'est-à-dire que Pour les supermarchés, la marge va être en pourcentage. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un produit conventionnel à un tel prix, par exemple à 1 euro. Et ils vont le revendre à 2 euros. Voilà, donc, ils font une marge de 1 euro. Mais pour eux, c'est une marge de 200%. Ils vont acheter un produit bio qui va coûter 2 euros. Au lieu de le vendre 3 et de faire la même marge, ils vont faire une marge à 200%, ils vont le vendre 4. Et il est là le problème. Le problème, il n'est pas vraiment que c'est beaucoup plus cher, en fait, au final. Le problème, il est que les mecs se gavent. Et quand j'entends le Muliez, là, qui est en train de dire maintenant qu'il va faire de la permaculture sur les toits du Auchan...
Après avoir produit du solaire... juste pour revenir sur cette campagne pesticide, est-ce qu'il a été testé aussi les animaux, j'allais dire, sauvages?
Non, parce qu'il y a un coût vraiment élevé et qu'on peut...
Pour faire de l'autopsie en lien avec les associations de chasse
ouais, ouais. Mais ça s'entend en plus, mais non, ça n'a pas été fait. Là, pour l'instant, nous, comme je dis, on essaye déjà d'attraper les 5000
oui,
testés. On est à 400 personnes sur Rhône-Alpes, 82 en Drôme. Et encore des gens qui attendent. D'ailleurs, nous, on lance un appel aux gens du Diwa.
Allons-y, oui.
Ouais, on lance.
Il y a personne du Diwa qui s'est testé encore?
Y a une nana qui s'est déplacée à la Réunion à Valence, qui nous a demandé de venir en fait. Et puis du coup, c'est un peu aussi ça qui m'a motivé à reprendre contact ici, parce que ça peine en fait, parce que on est loin en fait. Ça fait quasiment 2 heures de route, donc ça peut se faire. Mais comme à Montélimar, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un petit collectif, notamment avec les Coquelicots. On a monté un petit collectif de personnes motivées qui nous ont aidés. Donc pour le jour du prélèvement, donc on les laisse faire le recrutement, tout ça, blabla. Et nous, en fait, on vient juste le jour du prélèvement à un ou deux faucheurs volontaires pour chapeauter le truc, en fait. Et puis ensuite, derrière, on a une association, Campagne Glyphosate Locale, qui prend en charge l'encaissement des sous et qui, derrière, prend aussi en charge le lien avec l'avocat, le lien avec le laboratoire. Et que derrière, en fait, on redistribue à chacun de manière anonyme son résultat et sa volonté de porter plainte derrière. Et que ça pourrait se faire ici, bien entendu. Et que s'il y a des gens qui sont vraiment motivés à s'engager, notamment, je pense aux coquelicots ou à d'autres qui se sentent concernés par ça, parce qu'en plus ici dans un endroit très bio, on est sur un truc qui serait exemplaire parce que justement quoi, et que justement on sait tous qu'il y en a dans le train, il y en a dans les stades, c'est quand même assez compliqué, il y a des dérogations, ils nous disent que c'est interdit, mais il y a toujours des dérogations. C'est un problème qui concerne tout le monde, et que peut-être que à la limite, est-ce que ce serait pas ici, dans cette zone exemplaire au niveau de l'agriculture, qu'on arriverait à trouver la personne qui en a pas? Grande question.
Oh, c'est un défi ça.
Ouais.
Bon alors, habitant du Diwa, hein, vous l'appel est lancé. Alors comment on pourrait faire? Par exemple, quelqu'un là est intéressé pour monter le groupe de recrutement.
Alors prenez un crayon,
notez.
Campagne Glypho, donc CAMPAGNE, Glypho GLYPHO 26, puisque c'est le mail de la coordination dont je m'occupe. Tout attaché, campagne glypho 26@gmail.com. Désolé d'avoir pris ça chez Google.
Ça, c'est un autre combat.
On peut pas être partout.
Et donc voilà, on t'écrit là-dessus et donc on peut lancer ce groupe, rassembler personnes.
À fond. Après, il faut un local.
Pisser.
Ouais, alors ça se fait simple quoi. Il faut des chiottes, une grande salle avec un chiotte, deux c'est mieux. Deux chiottes, parce que comme ça va plus vite. Et puis voilà, qu'ils soient donc séparés avec une petite pièce où on puisse mettre une table et un huissier. Voilà. Donc parce que en fait, les gens, ils font la queue, ils rentrent, l'huissier se déshabille devant l'huissier, ils vont aux toilettes, ils ressortent, ils remettent leur fringue. Donc on demande aux gens de se mettre en maillot de bain. Voilà. Et puis bon, pour les femmes qui sont pudiques, on les laisse se mettre en legging si ça leur fait plaisir. Enfin voilà, mais en tout cas, maillot de bain.
Il faut avoir aucun produit à glisser dans l'éprouvette. C'est ça l'idée.
Donc il faut aussi des trucs où s'il y a des savons là incrustés dans les murs, il faut qu'on puisse les démonter. Des trucs comme ça. Donc voilà. Et puis après, une petite salle à côté pour qu'on puisse faire un petit déj sympa, que les gens puissent papoter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais milité de leur vie, qui viennent, qui font un acte de bravoure pour eux-mêmes, parce que ils se bougent en fait, tu vois, ils essayent de construire ça eux-mêmes et de participer à ça par c'est pas de la curiosité, c'est de la peur, je crois. Du coup, en fin de compte, ils sont contents de trouver des gens qui leur disent « Venez avec nous, quoi. De toute façon, on n'est pas seuls, quoi. » Tu vois, et...
C'est un peu comme n'importe quel test qu'on va faire au labo. Enfin, je vais en citer le pire, mais quand on va tester le VIH, on est en attente. Hein. Ouais. Et donc, celui-là, il est...
Alors, c'est 10 jours l'attente, ça va.
Ouais, ça va.
Bon. Ça va. Mais, de toute façon... Tout le monde en a, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de secret.
Principe que vous allez en avoir aussi.
Il n'y a pas eu une seule personne qui n'en a pas. Voilà, et c'est pour ça que bon, bah, nous, en fait, l'idée, elle est que plus on
sera... Des bébés, vous avez testé les bébés ?
Les bébés, c'est impossible. Il faudrait que ça coupe. Ça coûterait beaucoup. Ça coûterait trop cher, en fait, en huissier de justice. Parce que s'il faut attendre que le bébé pisse au-dessus du bocal, tu vois, et puis c'est des petites fioles, quoi. Ah, donc, non, c'est trop compliqué de tester un bébé. On a eu des enfants, hein, vraiment, en bas âge, je dirais 5-6 ans, qui sont capables de se retenir le temps d'un trajet, tu vois. Ouais. Et parce qu'avant, 3-4 ans, les gamins, ils se retiennent pas, tu vois. Enfin,
Il faut y aller,
c'est maintenant. Donc, non, tu peux. Enfin, c'est compliqué. Mais tout le monde. On a eu une nana en Ariège qui allaitait, quoi, qui est venue se faire tester et qui avait du glyphosate dans les urines. C'est vrai que son enfant, il en a aussi. Ouais. Ça, c'est triste, quoi. Moi, j'en ai, ma femme, moi, je bois peut-être un peu plus qu'elle d'apéro, mais surtout qu'elle allait, donc là, elle a pas, voilà, mais malgré le tout petit taux que j'ai, ça veut dire que nos deux enfants, ils sont possiblement contaminés, et que ça, c'est pas supportable, en fait. Donc, ouais, comme tu disais tout à l'heure, non, je veux pas savoir, quoi, combien. Imagine, il en a plus que moi, le gamin, parce qu'il mange des bonbons avec ses potes à l'école. Je vais péter les plombs. Non, c'est bon, ça suffit. C'est bon.
Voilà donc pour lancer cette campagne. Donc c'est un appel, hein, il faudrait tester les gens dans le Diois. Là, tu m'avais dit hors antenne aussi que vous commenciez à tester les gens aussi dans le Val-de-Drôme.
Ouais, alors là, après, je vais rencontrer un maire d'un des villages du Val-de-Drôme. Mm-hmm. Ils sont 14 élus de la communauté de communes, je crois.
Ah oui.
Si je ne me trompe pas, qui veulent faire le test. Donc eux, ils n'ont pas spécialement envie de porter plainte. Mais bon.
Ils veulent être sensibilisés.
Ouais, voilà, ils veulent le faire et je trouve ça c'est super bien, c'est une belle initiative. Là il y a de la conscience politique, quoi. C'est les mecs qui veulent savoir eux aussi, quoi, parce qu'ils ont pris déjà des démarches aussi, ils sont dans la Biovallée, ils sont à 40%, vous êtes à 40%, je crois, sur la région.
On va pas citer le maire, hein, parce que on garde son anonymat, mais il fait partie des communes qui par exemple sont passées au 100% sans pesticides.
Voilà,
il y en a plusieurs dans la Drôme, donc ça. Ouais. Vous pouvez chercher.
Ouais, c'est ça, allez-y, je vous en prie. Mais non, c'est quelqu'un qui a fait la démarche de venir me contacter. Qu'on avait parlé avant ça au conseil communautaire du Val-de-Drôme. Et là, je vais les rencontrer en sortant d'ici pour essayer de mettre ça en place et surtout essayer de négocier avec eux que les gens du Val-de-Drôme, de cette partie-là autour de Cré et tout ça, puissent venir à la Comcom faire aussi le test en même temps. Parce que ça me permet de lancer un appel et puis d'avoir une salle tout de suite. Et puis voilà. Parce que du coup, si on peut faire un prélèvement là, un prélèvement dans le Diois, j'aurais largement fait mon job, on aura couvert partout. On a commencé à l'Aveyron, dans le Nord, donc à côté de Saint-Vallier. On a fait un premier à Montélimar, un autre à Valence. On en refera un autre à Valence et un autre à Montélimar, parce qu'il y a beaucoup de demandes. À Romans, ça peine un peu, mais ça se met en place doucement.
Et puis, il faut aller dans le Vercors.
Eh bien, le Vercors, on les renvoie dans le 38, parce que c'est beaucoup plus simple de les faire descendre, vers Saint-Marcellin, tout ça, en fait. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et puis, les copains qui sont là-bas étaient prêts à le faire. Donc là, par contre, c'est pareil, pour ceux qui sont dans le Vercors, qui me contactent sur le campagne glypho26@gmail.com, et je les redirigerai vers la coordination iséroise. C'est pareil, on fait Saint-Péret, par exemple, à côté de Valence. C'est la Drôme qui le fait, parce que c'est plus compliqué pour ce Dobena. Enfin, voilà, on arrive à se dispatcher par territoire. À Nonnay, c'est les gens de la Loire qui le font. Enfin voilà, on est obligé parce que sinon c'est trop, quoi. Il y a des endroits, tu mets déjà là 1h30 de route pour venir ici, tu vois. C'est parce qu'on croit en ce qu'on fait aussi qu'on se déplace et qu'on pense que c'est possible. Quand je dis ce serait bien qu'il y ait un comité avec 8 bénévoles, 8-10 bénévoles qui veulent bien se faire tester en premier parce que c'est de 6h à 9h le matin, qui veulent se faire tester en premier, donc de 6 à 6h30 à peu près, et puis à partir de là, on les met en poste. Et puis hop, c'est parti, quoi.
Ils accueillent,
et puis ils font l'accueil, ils font le machin, parce qu'il y a différents postes dans le protocole, et puis que nous on chapote derrière, et puis que voilà, donc parce qu'on va pas se déplacer à une équipe de 10 ici, enfin c'est trop compliqué, quoi.
Et pour aller plus loin, tous les auditrices, auditeurs étant ultra concernés par ce que tu viens de nous dire, il y a les sites internet des faucheurs volontaires, il y a sites spéciaux pour les campagnes.
On a fait un site spécial qui s'appelle campagneglyphosate.com. Donc ça, c'est simple. Et dessus, il y a aussi, pour ceux qui sont touchés et qui voudraient nous aider, il y a un Hello Asso campagne glyphosate, mais qui est de toute façon en lien dans le site principal, où tout sera expliqué un peu plus en détail, où comment, pourquoi, tout ça. Et puis voilà, c'est un site qui est très bien fait et qui vous ramène en plus, pour ceux qui nous écouteraient sur Internet un peu plus loin, qui vous emmène aussi sur des coordinations départementales, à savoir qu'on a 70 départements aujourd'hui qui ont monté des coordinations. Donc on est qu'au début de quelque chose qui grossit, en fait.
Et y compris à l'outre-mer, tu le disais tout à l'heure.
Ouais, la Réunion, là, qui s'y met, on est super contents, parce que la Réunion, c'est une grosse histoire avec les herbicides. Hein, ouais. Et que les...
Le chlordécone.
Ouais, bah, là, c'est plus dans les Antilles. Mais à la Réunion, en fait, le gros problème qu'il y a, c'est que ça fait des années qu'on leur dit que c'est parce que. Et en plus, on les fait culpabiliser en disant si vous avez des malformations, c'est parce que vous vous mariez entre cousins. Et quand j'étais là-bas, parce que j'ai passé quand même pas mal d'années à la Réunion, enfin, basé à la Réunion en voyageant autour, on s'est rendu compte, enfin, moi, je me suis rendu compte, et que les mecs, en plus, en ayant parlé avec un des mecs de la préfecture là-bas, les mecs ils disaient bah ouais mais en fait on a revendu les cannes, la canne à sucre, 60% hein, de les terres agricoles, alors que c'est une terre volcanique, ils pourraient être complètement autonomes en bouffe, c'est de la monoculture avec de la plante super modifiée, et ils te balancent ça, et puis t'as des gens qui sont malades partout. C'est aujourd'hui, si t'es agriculteur à La Réunion, c'est où tu vas dans les hauts, là où il y a un temps qui n'est pas extraordinaire, et du coup comme il pleut beaucoup, parce que bah voilà, bah du coup tes plantes sont facilement malades, parce qu'il y a beaucoup de pluie, mais tout ce qui sont les versants, qui sont super fertiles, parce que c'est balayé par les eaux de pluie, et que du coup l'eau bah, elle brasse la terre, etc., et la roche, etc., qui se mélange, et donc c'est des terres vraiment fertiles, mais ils les ont bousillées, et donc les mecs, voilà, je suis super content qu'à La Réunion, là où j'ai 4 frères et sœurs, ouais, ça se passe comme ça, quoi. Il est temps. Et bien sûr, après, j'espère que ça partira ailleurs, là, comme je disais, on va aller en Suisse bientôt, et alors les copains à Annecy qui ont fait le test. Mais non, on risque rien, on a la montagne, tu vois, il n'y a que des pâturages et des vaches, nous on importe les trois quarts de ce qu'on bouffe, il ne peut rien nous arriver, bah tiens, c'est tous positifs, pareil, ni plus ni moins.
On y est tous. Bon bah Olivier, on arrive au terme de l'interview, okay. De cet entretien, c'était dense, est-ce qu'on a oublié quelque chose, selon toi ?
Ah, je sais pas, je peux vous donner la date de mon anniversaire, si vous voulez m'envoyer un petit cadeau, n'hésitez pas.
Ça n'a jamais été fait.
Non, c'est bon. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et comme
tu vends ta production
Ouais, alors on va commencer cette année là. On va commencer cette année à Saint-Vallier. Pareil, on a une page Facebook De Main Verte, D-E-M-A-I-N Verte. Donc c'est un petit jeu de mots. Voilà, et on travaille en famille.
Vous êtes deux, ça fait quatre mains.
Non, mais c'est parce qu'on tient chacun de nos enfants. Et voilà, ouais. Donc pour les gens de Saint-Vallier, n'hésitez pas, même pour les gens qui ont des écoles aussi, s'il y a des gens qui bossent dans les écoles, par exemple pour la journée mondiale, la dernière grève mondiale, on a mis en place des parterres de permaculture dans une école à Andance. Ça, on peut le faire dans n'importe quelle école. On peut faire des interventions, notamment sur le rapport de l'homme à la nature, sur tout ça dans les écoles. Et pour les tout-petits, on a des trucs adaptés où on leur fait faire des dessins, on leur fait écouter de la musique pour détendre un peu le truc et pour que ce soit pas du bourrage de crâne, parce que c'est pas l'idée. Et donc, on peut faire des interventions dans les écoles. On peut faire plein de trucs, en fait. Et puis, les gens qui ont juste envie, même d'avoir quelques graines, là, je crois qu'on n'a pas tout planté, donc on peut en donner. Enfin, faut pas hésiter. Voilà, on a pas mal de trucs. Et c'est quasiment que des graines libres de droit ou qui sont reproduites, machin. Comme on n'a pas le droit de les vendre, on les donne avec plaisir aux gens qui n'en ont pas et qui ont envie d'avoir, je ne sais pas, une jolie courge sur leur terrasse parce qu'ils n'ont pas de jardin ou qui ont envie de squatter un endroit abandonné. Il ne faut pas hésiter à le faire, ça. Hein. À squatter des endroits où il n'y a rien pour planter un potager.
Ah ouais.
Voilà, il ne faut pas hésiter. Faut le
faire. Puis Olivier se déplace, hein, là tu le redis, mais ouais, franchement, t'es vraiment chaud.
Grave. Tu rigoles, ma fille va me mettre des quiches quand elle aura 15 ans. T'es fou, obligé, j'y vais.
Ben merci d'être passé alors.
Ben merci à vous de m'avoir invité, à bientôt j'espère. Ouais. Salut.
Interview. Okay, bye bye.